RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Trop d'enfants placés ont souffert dans les foyers ou les familles qui devaient les protéger. Mais comment en est-on arrivé à cette double injustice? Que faut-il changer pour que l'État puisse éviter ces défaillances? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce matin avec nos invités. Notez que dans la seconde partie de l'émission, on parlera du rôle des familles d'accueil, non pas pour les enfants, mais pour les personnes en situation de fragilité, notamment les personnes âgées et en situation de handicap. Ce sera à 10h. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous avez été placés, quels souvenirs en gardez-vous? Que diriez-vous de la structure dans laquelle vous avez grandi? Et si maintenant vous encadrez des jeunes enfants placés en foyer, quel constat faites-vous? Venez témoigner au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et comme tous les mercredis avec Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Oui, on parle ce matin d'une situation qui concerne 370 000 enfants en France, des enfants que la justice doit protéger. Alors pour cela, ils sont envoyés dans des familles, des internats, des foyers. Ce sont des enfants placés. Parfois, ils y trouvent véritablement une seconde chance. Mais parfois aussi, c'est la double peine. L'institution qui devait les protéger, les éloigner des violences, va finalement les y replonger. Alors, comment en est-on arrivé à ces drames qui vont de la maltraitance au suicide? Les défaillances sont-elles des cas isolés ou un système qu'il faut revoir? Bien, pour identifier les manquements de la République, une commission d'enquête parlementaire a commencé son travail. Elle va auditionner, collecter des informations pour repérer les dysfonctionnements qui traversent le secteur de l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance tire la sonnette d'alarme sur le manque de moyens. Mais derrière les difficultés rencontrées dans les foyers d'accueil, est-ce qu'il faut aussi y voir un manque d'exigence, un manque d'espérance peut-être? On va l'entendre. C'est aussi la question de l'éducation, de la dignité, de la vie des jeunes en fragilité qui sera interrogée ce matin.
Et pour en discuter, Madeleine, jusqu'à 10h, on a le plaisir d'accueillir ce matin plusieurs invités.
Avec nous, Anne-Flore Magnan, bonjour.
Bonjour Madeleine, bonjour Melchior.
Vous êtes éducatrice spécialisée actuellement en communauté à Bruxelles comme directrice d'un internat à vocation sociale. Vous êtes religieuse chez les Salésiennes de Don Bosco dédiée à l'éducation des jeunes les plus en difficulté. Avec nous également Marie-Angèle Gandarès, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes actuellement en formation au sein du collectif Père à bord 42 pour devenir aidante dans les milieux de la santé mentale et de la protection de l'enfance. Vous avez été entre l'âge de 16 et 21 ans une enfant placée et vous avez rejoint le comité de vigilance des anciens enfants placés pour lequel vous êtes fortement investi aujourd'hui à 42 ans. Merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Avec nous également Pierre-Alain Sartou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général de la CNAP. La CNAP, c'est la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. La CNAP rassemble environ 200 associations qui s'occupent d'enfants vulnérables. Ces associations, elles sont concernées par la protection de la jeunesse, judiciaire de la jeunesse, les enfants handicapés, ou justement l'aide sociale à l'enfant. C'est un sujet que vous connaissez bien, et notamment du côté institutionnel, puisque vous avez travaillé auparavant comme directeur de cabinet de la ministre, alors chargée de l'éducation, de l'économie sociale, solidaire et responsable à Bercy.
Merci à tous les trois de nous accompagner. Notez qu'à 9h30, nous rejoindra Lucas Cortella. On vous le présentera tout à l'heure, on prendra le temps. Je rappelle que vous avez la parole pour réagir ce matin au 04 72 38 20 23. Vous évoquiez, Madeleine, cette commission.
Oui, alors cette commission d'enquête parlementaire sur les défaillances de l'aide sociale à l'enfance, elle est aujourd'hui créée. Mais auparavant, il y a aussi eu en novembre 2023 un rapport sur les violences subies par les enfants. En mars 2016, la loi aussi venait renforcer la stabilité des parcours de l'enfant. Alors on a le sentiment du coup que ce sujet est sur la table depuis longtemps. Mais le manque de moyens, les maltraitances, les violences n'ont pour autant pas disparu. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les foyers, les familles d'accueil ne sont pas toujours à la hauteur de la protection qui est exigé d'eux? Comment un enfant qui arrive d'un milieu déjà fragile, qui a pu subir des violences dans sa famille, se retrouve à nouveau dans des structures où il peut être maltraité et parfois même violé par les plus grands? C'est ça la question. Alors comment est-ce qu'on en est arrivé là? C'est vous que j'interpelle, Pierre-Alain Sartou. Comment est-ce que on en est arrivé là?
Bon, donc aujourd'hui, on a, comme vous l'avez dit, 370 000 enfants qui sont concernés par une mesure de protection de l'enfance. C'est la moitié à peu près qui est accueillie. accueillis, protégés, soit au sein de familles d'accueil, soit, comme vous l'avez dit, au sein de foyers, de maisons d'enfants à caractère social. Il y a effectivement beaucoup de structures dans lesquelles, du fait du travail des éducateurs, du fait d'un encadrement de qualité, ça se passe bien pour les enfants, et puis il y a toutes ces situations que vous évoquez, où effectivement des enfants sont victimes de maltraitance plus ou moins volontaires de la part d'autres enfants, parfois de la part d'adultes qui n'ont rien à faire là. Heureusement, c'est des situations qui sont marginales, mais néanmoins qui sont intolérables. Donc comment on en est arrivé là ? Il y a beaucoup de choses qu'il faut interroger, je pense qu'on va le faire au cours de l'émission. Ouais. C'est aussi le rôle de la commission d'enquête que vous avez évoqué. C'est des défaillances qui nous apparaissent plutôt institutionnelles, c'est-à-dire un manque de moyens humains, un manque de moyens financiers, un manque d'ambition sans doute aussi, de la part des pouvoirs publics qui n'ont pas assez de volonté politique à mettre pour l'avenir de ces enfants.
Donc la volonté politique, on y reviendra justement parce que c'est vrai que c'est pas uniquement une question de il y a bien sûr une question de moyens, mais c'est aussi derrière qu'est-ce que on a envie de transmettre aussi à ces jeunes, qu'est-ce qu'on peut leur donner à espérer de l'avenir avec nous également justement pour en parler, pour témoigner Marie-Angèle Gandarez. Alors vous avez été vous entre l'âge de 16 et 21 ans une enfant placée. On a envie juste pour vous mieux vous connaître de connaître un petit peu votre histoire par rapport justement au placement d'enfants. Quel est votre lien ? Où est-ce que vous avez vécu et grandi ?
Alors, donc, moi, il faut savoir qu'à l'âge de 16 ans, j'ai donc demandé mon placement. Donc, c'est moi-même qui l'ai demandé pour des maltraitances familiales, maltraitances physiques et psychologiques. Donc, j'avais commencé par appeler le 119, etc., insister, puis je me suis rendue au tribunal, etc. Je me suis ensuite retrouvée donc à l'IDEF de Bron. Donc à Lyon, à l'ancienne cité de l'enfance, donc c'était un foyer d'accueil d'urgence où on est censé rester 3 mois et je suis restée beaucoup plus, 6 jusqu'à ce qu'on trouve une solution. Et entre-temps, j'avais demandé à ce que l'autorité parentale de mes parents soit retirée, notamment de mon père, qui de déchoir de ses droits parentaux, sachant qu'il avait d'abord déjà été déchu une première fois de ses droits parentaux d'un enfant d'un premier lit et ça m'a été refusé. Donc il a fallu maintenir le lien avec les parents, et ce qui est très destructeur le temps de mon placement.
Quand vous dites ça m'a été refusé, c'est suite à une décision de justice ?
J'ai fait la demande et on m'a dit non.
Donc c'est les services départementaux qui vous ont dit
la
non ?
Justice.
La justice, ah oui,
oui, j'ai demandé à mon juge, donc on a un juge pour enfants, j'ai demandé à mon juge et bon, ça ne m'a pas été accordé. Donc mes parents ont conservé donc le lien familial, les décisions donc sur mon éducation et ma scolarité, les allocations familiales et donc tout ce qui s'ensuit. Finalement, j'étais placée sans être placée.
Alors oui, et ce que vous soulevez là, c'est le maintien absolu du lien familial, ce qu'on pourrait au départ penser comme étant presque positif, de se dire qu'on ne naît pas de nulle part, qu'il est important qu'on sache qui sont ses parents, que malgré tout, peut-être un lien existe qui peut peut-être changer par la suite. Et vous, vous venez de nous dire que effectivement, ça pour vous, ça a été finalement pire que tout.
Oui, bien sûr, ça a été pire que tout, puisque je pensais quitter l'enfer. Et puis voilà, finalement, ben j'ai connu autre chose, mais toujours avec cette pression familiale constante. Voilà, je vous dis même notamment au niveau de mes études, j'ai pas eu le choix de mes études, et mon père a toujours décidé pour moi, même quand j'étais placée.
Mais vous diriez que vous auriez aimé que ce lien soit totalement rompu, alors parce que vous ne souhaitiez plus qu'ils aient à décider pour vous, mais aussi peut-être parce que vous ne souhaitiez plus les voir, parce que vous ne vouliez plus avoir affaire à cette
tout
première
à fait.
Famille
et donc, tout à fait, et donc, du coup j'ai été forcée d'y aller les week-ends, les après-midi, parce que j'avais pas le choix, et donc comme je ne voulais pas et je m'y opposais, parce que bon, j'avais une adolescence assez compliquée, j'étais quand même assez chargée au niveau bagage, donc j'étais pas une adolescente facile, mais il est vrai que non, je ne voulais pas retourner chez moi parce que j'avais peur que mon père me tue. Et je l'avais dit, je l'avais écrit, je l'avais crié, et malgré ça, on m'obligeait à aller chez mes parents et on me faisait un petit peu du chantage pour que je puisse y aller parce que je voulais pas quitter le foyer. Et on me disait qu'on allait appeler le chef de service, etc. Et moi, j'avais très peur des hommes. Et le chef de service était un homme qui était assez impressionnant pour moi, qui me faisait vraiment peur. Et on me disait, voilà, on va l'appeler si tu vas pas voir tes parents, si tu vas pas en visite, donc c'était assez compliqué. Et parfois, mes parents venaient même à monter sur le groupe, me regarder faire le ménage dans ma chambre, sous les yeux des éducateurs, pour prouver que j'étais bien gentille et que je faisais mon lit, changeais mes draps et qu'après, je pouvais sortir.
On enchaîne avec vous, Anne-Flore Magnan, parce qu'on voudrait vous entendre. Vous êtes dans un centre, on peut dire un internat en fait, à vocation sociale. Vous êtes éducatrice spécialisée. Décrivez-nous peut-être un peu le type de structure dans laquelle vous travaillez. Et puis après, je voudrais qu'on vous entende sur justement ce lien ce maintien du lien familial. Anne-Flore Magnan, donc vous à Bruxelles, le type de structure dans lequel vous travaillez.
C'est un internat social donc qui a vocation à accueillir tous les jeunes entre 6 et 21 ans, ou 5 et 21 ans, il y a parfois des petites exceptions, avec un service un peu spécifique sur les 17-21 ans, parce que là les prises en charge changent pas mal. Mais le cœur de notre action se situe dans l'accueil des jeunes en difficulté. Et derrière le mot difficulté, on peut mettre beaucoup, beaucoup de choses. On a à peu près 70% de nos jeunes qui sont placés par les services sociaux ou le juge, et 30% où c'est sur demande des parents. Alors parfois, c'est avant d'en arriver aux services sociaux et au juge, mais si déjà le parent le demande, c'est une première étape qui peut être intéressante. Donc nos jeunes sont répartis évidemment en groupe de vie, avec la présence d'éducateurs, avec la présence d'une cuisinière, la présence de la communauté religieuse qui joue aussi beaucoup. On a pas mal de bénévoles qui interviennent sur les espaces d'accompagnement scolaire, d'activités, de sorties, etc. Et c'est une structure dont, initialement, il est prévu qu'on accueille des jeunes qui ont des difficultés et d'autres qui en ont un peu moins, parce que ça rejoint la pédagogie de Jean Bosco, qui est donc le fondateur de ma congrégation religieuse, et de notre pédagogie, où ce qui permettra aux jeunes, et aux adultes, hein, ça fonctionne pareil, mais là c'est les jeunes, de pouvoir avancer, c'est la rencontre avec les autres. Et je crois que c'est un élément dans le processus d'accompagnement des jeunes, alors placés, mais en fait des jeunes de la protection de l'enfance, c'est que ce qui permet de changer la vie d'un enfant, c'est la rencontre avec des adultes qui donnent envie d'être adultes, avec des adultes stables et fiables, sécurisants, avec une structure qui est sécurisante. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire que ce soit en France ou en Belgique francophone, beaucoup de structures ne le sont pas. Il y a évidemment des lieux où ça va bien et il faut le dire, parce que ça, c'est une marque d'espérance importante, notamment pour les travailleurs sociaux. Tout ne s'écroule pas partout. Mais la situation est assez catastrophique dans beaucoup d'endroits. Et je ne dis pas ça à charge des travailleurs sociaux dont je fais partie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions de travail, pour se donner quelques repères, on a plus de critères d'encadrement sur une colonie de vacances l'été ou sur un camp scout, où on exige d'avoir un adulte pour 12 enfants, que dans des structures de l'aide sociale à l'enfance ou de protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive tellement pas à recruter d'éducateurs. Il y a plus de 70% des postes, il me semble, qui sont remplis aujourd'hui dans les structures en France. Donc vous imaginez la charge de travail pour ceux qui sont là, le déséquilibre pour les enfants qui voient des adultes parce qu'il y a beaucoup d'intérimaires embauchés. Bah, quand c'est jamais le même adulte le matin et le soir, quand vous êtes déjà dans une situation de fragilité et d'insécurité, tout ce que ça vient générer en plus. Il y a quelque chose qui me touche beaucoup en lien avec la commission d'enquête parlementaire, mais dans la situation de nos jeunes, c'est un verset de l'évangile selon saint Matthieu qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Alors on peut l'interpréter de différentes manières, mais moi j'aime à penser que qu'est-ce qu'on donne à ces enfants? Quel est le trésor de base qu'on leur donne pour grandir? Si à ces enfants, au départ, on leur fait connaître l'insécurité, la violence, la peur, l'angoisse, comment ils peuvent grandir? Et si le système en France s'appelle protection de l'enfance, il faudrait agir sur la partie protection pour commencer ça peut-être et changer un peu le trésor de base qu'ils ont accumulé enfants ou adolescents pour que ça puisse évoluer. Et c'est là où la rencontre est hyper importante.
Anne-Flore Magnan, simplement pour vous faire préciser un point, vous disiez que 30% des enfants sont là sur la demande des parents. Quelles sont les raisons qui sont données?
Alors, il peut y avoir, par exemple, il y a des mamans solos qui ont 3-4 enfants, qui aujourd'hui, pour des conditions de précarité, doivent accumuler plusieurs emplois. Elles ont conscience qu'elles ne peuvent pas être présentes pour leurs enfants. L'école en Belgique finit à 15h, donc il y a quand même peu de parents, quand on travaille, qui peuvent aller récupérer leurs enfants à 15h. Si ces mamans-là ont deux travails, c'est de l'ordre de l'impossible. Et donc, elles ont conscience qu'il vaut mieux aller demander de l'aide, et c'est une très grande qualité de leur part, et vraiment, moi, je les en remercie. Et du coup, c'est facile de travailler avec ces mamans-là.
Oui, ça vient de
parce qu'elles sont demandeuses, ouais. Parce qu'on est dans une collaboration, on échange, on avance. Par rapport à d'autres parents, je rejoins la parole de l'invitée précédente,
Marie-Angèle.
Quand elle dit « j'avais peur que mon père me tue », on peut imaginer la violence que c'est pour une enfant, une adolescente, d'imaginer rentrer chez soi, en tout cas ce qui était chez soi avant, et avoir peur de mourir, d'être tuée par celui qui devrait nous protéger et nous aimer. On est dans un système de perversité, d'inversion totale. Et là, le lien à la famille est rendu très difficile. Et moi, j'entends ce que disait Marie-Angèle en disant « on me menaçait que le chef de service intervienne ». Ben, en fait, le chef de service, il est aussi pris par une décision judiciaire. Et donc, il y a tout un système à réinterroger de une enfant, une adolescente qui dit, qui fait les démarches elle-même à 16 ans. C'est quand même pas rien de dire « j'ai peur pour ma vie est en danger », qu'on continue à l'obliger à aller voir ses parents, à aller voir ceux qui menacent sa vie, et qu'on oblige des professionnels du travail social, donc qui sont là pour accompagner les jeunes. Hein. Nous, notre premier travail, c'est pas d'accompagner les adultes.
Ouais.
On travaille en protection de l'enfance, donc c'est d'accompagner les enfants et les jeunes. Mais on est rendu en fait collaborateur de cette décision, alors qu'on n'a aucune prise dessus. Et moi, ce que j'observe, alors moi, j'ai pas 60 ans d'expérience encore, mais c'est qu'il y a quand même des courants idéologiques en protection de l'enfance. Où déjà, quand moi je faisais mes études d'éducatrice spécialisée, j'avais lu un très chouette livre qui s'appelle L'échec de la protection de l'enfance de Maurice Berger, je crois, de mémoire, qui a donc été écrit déjà il y a quelques années. Et où on réinterrogeait cette idéologie du lien familial. Je vous rejoins quand vous dites il faut que les enfants puissent savoir d'où ils viennent, qui ils sont et ce qui fait partie de leur histoire. Et avoir un père violent, maltraitant, ça fait partie de l'histoire d'un enfant. Et l'enfant a besoin d'être accompagné pour réélaborer ça et se guérir d'abord lui-même. Mais l'enfant n'est pas un objet au service du droit parental ou de l'autorité parentale.
On parle des... Je coupe la parole pour relancer, parce que c'est vrai qu'on parle des enfants placés, vous l'entendez ce matin, qui parfois ont souffert dans les foyers. Comment en est-on arrivé à cette double injustice? Que faut-il changer pour que l'État puisse éviter ces défaillances? On en discute avec nos invités et avec vos témoignages. Le standard est ouvert. Si vous avez été placé, quels souvenirs en gardez-vous? Que diriez-vous de la structure dans laquelle vous avez grandi? Et maintenant, si vous encadrez des jeunes placés en foyer, quel constat faites-vous? Vous venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on continue, Madeleine, avec nos trois invités pour le moment. Anne-Flore Magnan, éducatrice spécialisée en direct de Bruxelles. Marie-Angèle Gandarès, actuellement en formation au sein du collectif Paris à bord 42. Et puis Pierre-Alain Sartou, directeur général de la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant.
Oui, Pierre-Alain Sartou, je voudrais qu'on vous entende parce qu'on a évoqué les éducateurs spécialisés. Alors c'est vrai que dans les médias ou dans les discours, ils sont beaucoup remis en cause. Quel regard vous portez sur à la fois leurs moyens, leur formation, leur capacité à être face à des jeunes en difficulté, la façon dont les structures fonctionnent? D'où vient la défaillance?
Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites par Anne-Flore Magnan. Je la remercie d'avoir justement porté la voix des travailleurs sociaux. Il y a une forme d'injustice à ce que les éducateurs spécialisés, mais pas que, il y a aussi des moniteurs éducateurs, des éducateurs de jeunes enfants qui sont au plus près des enfants, qui font leur mieux au quotidien pour s'occuper de ces enfants, soient pris pour cible, notamment dans certains médias un peu sensationnalistes. C'est vraiment dommage parce que c'est des métiers à vocation. C'est des métiers qui ont l'humain au cœur. C'est des métiers qui sont dans des conditions de travail qui sont pas évidentes. Ça a également été dit par Anne-Flore, mais il n'y a pas assez de professionnels dans ces structures. Donc forcément, déjà que des jeunes sont parfois compliqués, parfois en situation de handicap, parfois avec des troubles du comportement. Donc c'est pas du tout évident pour eux de gérer des situations individuelles complexes. Et pour autant, ils font ce qu'ils peuvent. Mais en étant peu nombreux, parfois pas assez formés, parfois trop juniors, parce qu'il n'y a pas l'encadrement nécessaire pour s'occuper des situations. Là, c'est vrai qu'on a très concrètement des établissements qui dysfonctionnent. Qui dysfonctionnent au sens où la mission fondamentale de ces foyers, c'est d'apporter une réponse aux besoins fondamentaux de ces enfants. Le premier de ces besoins fondamentaux, c'est le besoin de sécurité. Remettre ces enfants en sécurité. Sécurité physique, évidemment, quand on entend le témoignage de Marie-Angèle Gandarès sur le fait qu'elle avait peur d'être tuée par son père, l'objectif d'une maison d'enfants à caractère social, c'est d'anéantir cette peur et que ce besoin de sécurité, ce lien affectif se recrée. Mais c'est aussi une forme de sécurité plus psychologique. C'est d'autres besoins fondamentaux qu'il est essentiel que les adultes autour de ces enfants remplissent pour eux. Et ça peut se faire uniquement s'ils ont le temps de s'en occuper, s'ils sont assez nombreux, et ça a également été dit, s'ils sont là pour les enfants, sans être en permanence remplacés, sans que ce soit des intérimaires qui soient sur des missions d'une semaine, et sans que les enfants, qu'on place dans des structures qui sont supposées les protéger, voient en fait une succession d'adultes se succéder, ouais. pour s'occuper d'eux. Et en fait, ils s'occupent pas d'eux. Enfin, c'est pas vrai.
Mais alors, ça veut dire qu'il faut arriver à instaurer une stabilité aussi au niveau de ceux qui encadrent, en fin de compte, parce qu'on parle beaucoup de l'instabilité de ces jeunes et de la difficulté de tenir pour eux un parcours. C'était notamment dans la loi de 2016. Mais quand on vous écoute, on entend aussi qu'il y a une stabilité à construire aussi pour les formateurs, pour les encadrants, pour les éducateurs spécialisés.
Alors, c'est pas compliqué d'organiser une forme de stabilité. Il faut donner envie aux éducateurs de rester. Il faut leur donner les moyens de pas se mettre en surmenage, de pas avoir à se placer en arrêt maladie pour se protéger eux-mêmes parce qu'en fait, ils travaillent trop et que les situations sont ingérables. Donc, pour ça, il y a une solution qui est très simple. Ça consiste à, enfin, en protection de l'enfance, et notamment dans les foyers, organiser des normes et des taux d'encadrement. Donc, ça a été évoqué, encore une fois, par Anne-Flore. Oui. Elle mentionne les colonies vacances. Oui. On peut mentionner les crèches. On peut mentionner n'importe quel type de structure qui encadre des enfants. Il y a un seul type de structure en France, peut-être en Belgique aussi, mais en France en tout cas, où il n'y a aucune norme d'encadrement, c'est les foyers de la protection de l'enfance. Oui. Donc c'est complètement absurde. Nous, avec d'autres collectifs et d'autres fédérations nationales, on mène un gros travail de plaidoyer auprès des décideurs politiques, députés, ministres, présidents de département, pour justement montrer qu'est-ce qui serait des bons taux d'encadrement, quel bon ratio il faudrait. Ça, c'est absolument essentiel. On a aussi chiffré ce que ça allait coûter. Et je vais le dire aujourd'hui, le surcoût d'un encadrement qui nous paraît minimum, c'est 1,5 milliard d'euros par an. C'est énorme. Ça veut aussi dire qu'on est très, très, très loin aujourd'hui de la cible.
Ouais. Alors, ça veut dire que ça ne peut être qu'une volonté politique. Ça ne peut être qu'un choix aussi et une compréhension de la situation, parce que on a beau entendre qu'il y a eu plusieurs lois, que véritablement on sent qu'il y a une prise de conscience quand même, une volonté de savoir, ne serait-ce que cette commission d'enquête. Après, qu'est-ce qui peut vraiment se passer, Marie-Angèle, vous avez justement envie de sensibiliser davantage les hommes politiques, les députés notamment, à ces besoins, à ces nécessités en termes d'encadrement, et vous avez rejoint le comité de vigilance des anciens enfants placés. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est un collectif, donc nous sommes des anciens enfants placés de tous âges, avec des parcours et des vies et des placements donc différents, et nous sommes aux quatre coins de la France. Et ce qui nous unit aujourd'hui, c'est notre détermination à faire en sorte que le point de vue des premiers concernés, donc nous, reste. Et du début jusqu'à la fin, donc au centre de travail de la commission d'enquête parlementaire sur l'ASE, donc nous voulons être plus que de simples témoins. On veut avoir plus de poids. Nous sommes des experts légitimes reconnus par la loi dans sa définition du travail social, et il est temps de nous entendre à ce titre-là.
Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous dites, vous ne voulez plus être des témoins. Vous pensez que ceux qui ont été placés n'ont peut-être pas assez dit ce qu'ils avaient vécu. Il y avait un tabou.
Non, je pense pas qu'ils ont pas assez dit. De ma part, voilà, c'était bon, fin des années 90, certes, mais on était beaucoup, beaucoup dans les différents foyers dans lesquels j'ai été placée. On était beaucoup à se plaindre, beaucoup à dire, beaucoup à faire remonter, notamment aux directeurs et aux directrices des institutions, ce qui se passait au sein des foyers, des violences, des humiliations, que ce soit des humiliations des éducateurs ou même des jeunes entre nous. Hein. Enfin, c'est pas non plus, voilà, je jette pas la pierre aux éducateurs, parce que moi j'ai eu la chance après dans mon parcours jeune majeur de tomber sur deux super éducateurs, voilà, qui ont fait la femme que je suis aujourd'hui. Mais ça a été très compliqué parce que moi déjà j'avais pas confiance en l'adulte, pas confiance aux hommes, et je me retrouvais toujours dans des situations avec des éducateurs qui étaient quand même assez compliquées et assez humiliantes. Et ça, faut que ça cesse.
Et vous avez le sentiment aujourd'hui que ça y est, cette commission, elle peut davantage faire bouger les choses ?
Ben, c'est historique. C'est une première pour la protection de l'enfance, donc oui, ben on va y veiller, et j'espère vraiment que les politiques vont enfin nous écouter et nous prendre en considération et vraiment au sérieux, et qui vont vraiment voilà, mettre en place donc notamment la loi Taquet, qui interdit donc les placements dans les gîtes, les hôtels, etc.
Oui, il faut le dire aujourd'hui, ça peut parce que vous le dites comme ça à la volée, mais en fait on réalise pas qu'aujourd'hui des enfants sont placés dans des hôtels.
Oui, dès 8 ans. Donc on ne sait pas qui s'en occupe, comment ça se passe, qui s'occupe de leur sécurité affective, de leur sécurité physique. Il y a des aujourd'hui, ben il y a de la prostitution à ce niveau-là, des mauvaises personnes intentionnées qui en profitent. Nous avons eu des suicides dernièrement, et pas qu'un. Ça n'aurait pas existé chez nous en France en 2024, surtout pas.
Qu'est-ce qui fait que vous avez mentionné des délits, hein, de la part des éducateurs spécialisés ? Mmh. Qu'est-ce qui fait que il n'est pas été sanctionné, ou est-ce qu'ils sont véritablement passés devant le tribunal et après ça n'a rien changé ? Comment ça se fait que la situation n'a pas changé ?
Parce que ça, c'est tabou. ça reste à l'enceinte du foyer. Ça se règle entre la direction et les principaux protagonistes.
Mais est-ce qu'il y a des plaintes qui sont déposées, par exemple?
Non, parce qu'on connaît pas.
Parce que vous êtes jeune, en fait. Oui.
On est jeune, et puis dès notre placement, en fait, on n'a pas d'assistance d'un avocat. Et ça, ce serait intéressant et même nécessaire que dès qu'on rentre en foyer ou même qu'on a un suivi à la maison, qu'on ait un avocat pour qu'on puisse connaître nos droits et les faire valoir, ce qui n'est pas le cas. Moi, j'ai pris un avocat longtemps après, par la suite, parce que mes parents ont d'abord pris un avocat pour m'attaquer. Donc, je passais de victime à bourreau, on va dire. Et donc là, on m'a dit, écoute, prends un avocat, un commis d'office. Mais c'est moi qui ai fait toutes les démarches toute seule, pouvoir obtenir l'aide d'un avocat.
Pierre-Alain Sartou, rapidement, oui. Alors sur cette question de comment sont sanctionnés les éducateurs spécialisés qui fautent. Parce qu'effectivement, il y a la question de la plainte qui n'est pas toujours déposée. Donc, à partir de là, comme vous le disiez, on met un peu sous le tapis. Mm-hmm. Pierre-Alain Sartou. Mm-hmm.
La mission vraiment principale de ces structures, c'est de protéger les enfants, de protéger contre les abus d'autres enfants, ce qu'on appelle les mineurs auteurs, ou les abus d'autres adultes. Moi, je n'ai pas connaissance d'un système qui protège au sein des foyers les éducateurs.
Il y a des situations dans lesquelles peut-être... Quand vous dites qu'ils protègent,
qu'ils couvrent. Oui. Je n'ai pas connaissance d'un système qui couvre les éducateurs. Il y a pu avoir, effectivement, probablement des tentatives d'essayer de déguiser ou de garder les choses sous le tapis. C'est absolument intolérable. Et effectivement, là, ce que dit Marie-Angèle, le droit à la défense des enfants via la parole d'un avocat, nous, on le défend.
Et on va continuer d'en parler dans un instant avec nos invités et vos témoignages au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Madeleine Vatel, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Il est 9h30 dans Je pense, donc j'agis. Madeleine, on parle, vous l'entendez, de la situation des enfants placés qui ont souffert parfois dans les foyers. Et on était très heureux d'avoir Marie-Angèle avec nous.
Oui, merci beaucoup Marie-Angèle Gandarès.
Merci,
merci d'être venue d'abord témoigner parce que vous avez été placée entre l'âge de 16 et 21 ans. Et puis aussi parce que vous êtes aujourd'hui au sein du comité de vigilance des anciens enfants placés. Vous êtes investie fortement et c'est une cause que vous portez haut et fort. Merci beaucoup. Vous êtes en formation d'ailleurs dans les milieux de la santé mentale et protection de l'enfance. Merci à vous et bonne
suite.
Tout
à fait, merci beaucoup.
Merci à vous et dans un instant, nous rejoindra Lucas Cortella. On vous le présente, promis, dans un instant après cette chanson qu'on va écouter tout de suite. Ça va vous laisser le temps également de venir témoigner. Si vous avez été placé, quel souvenir en gardez-vous? Que diriez-vous de la structure dans laquelle vous avez grandi? Venez témoigner au 04 72 38 20 23. We laid on Primrose Hill, didn't know it still. You meant what you said. Overcast sultry day, I didn't know what to do, I didn't know what to say. We lay there forever, forgot everything, kissed beneath the stars, shooting into the hills, the stars. Exploded into a flame. Always remember Primrose Hill, Primrose Hill. I'll always remember Primrose Hill, Primrose Hill. Disappear forever. Forever's a long word, but never's not long enough to be loving you. Forever and a day, I looked into your eyes. Such a great surprise. You take my breath away. Always remember Primrose Hill, Primrose Hill. à la Primrose Hill, c'était James McCartney, l'un des fils de Paul McCartney.
Lui-même.
Ça paraît plutôt logique qu'on écoutait à l'instant dans Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec nos invités jusqu'à 10h, Madeleine, on continue. Anne-Flore Magnan nous accompagne, éducatrice spécialisée religieuse chez les Salésiennes de Don Bosco et actuellement dans un internat pour l'éducation des jeunes les plus en difficulté. Toujours avec Pierre-Alain Sartou, directeur général de la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfant. Et notre quatrième invité nous a rejoint, Madeleine.
Oui, notre quatrième invité, c'est Lucas Cortella. Bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Vous êtes travailleur social depuis quelques années maintenant et puis vous êtes membre du comité de vigilance, on en a parlé tout à l'heure, en tant qu'ancien enfant placé. Vous avez été à l'âge de 15 ans placé à la suite d'une décision pénale parce que vous aviez commis plusieurs infractions et parce que votre famille était déjà par ailleurs accompagnée par les services sociaux. Vous avez donc connu plusieurs foyers et plusieurs familles d'accueil par la suite. Finalement, qu'est-ce que vous diriez que vous avez reçu durant ces années? Qu'est-ce qui vous a coûté? Qu'est-ce qui au contraire vous a construit?
De mon expérience, j'ai souvent tendance à dire que j'ai plus été un enfant déplacé, comme beaucoup d'autres, plus qu'un enfant placé en fait. Faut savoir que moi j'ai été placé, comme vous l'avez dit, de 15 à 21 ans, donc ce qui fait aussi, c'est assez tard, je veux dire, au niveau d'une chronologie de vie. Et ce que je retiens de tout ça, c'est qu'en fait, à peine mes valises posées dans un endroit, en fait, on me demandait de repartir sans trop vraiment me demander mon avis et me consulter. Donc c'est aussi ça, ces nombreux déplacements et cette impossibilité en fait à pouvoir se reconstruire convenablement et calmement pour prendre un nouveau départ, tout simplement.
Sans vous demander votre avis, vous auriez eu quelque chose à dire, c'est-à-dire que vous auriez souhaité rester à certains moments et est-ce qu'on vous a expliqué la décision aussi?
Ce qui est un peu, par rapport à mon histoire, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que ma famille était déjà suivie par les services sociaux, en fait, avant même que moi je commette des infractions qui ont ensuite permis de mettre un peu plus le nez dans toutes ces histoires. C'est que moi, à ma naissance, ma famille était déjà un peu dysfonctionnante et donc était déjà suivie. Mes grandes sœurs, c'était la même chose et qu'en fait, il a fallu attendre que moi je fasse un peu ma crise d'ado et mon pétage de plomb en fait à l'adolescence pour qu'aussi on se rende compte qu'en fait ça tenait plus à la maison et que c'était plus possible. C'est aussi ça que je regrette, c'est qu'en fait il a fallu attendre que ça soit trop tard et que moi je commette des actes à l'époque qui auraient pu me mettre en danger en fait et me conduire à des choses beaucoup plus graves. Et c'est ça en fait, moi c'est ce constat, je me dis en fait pour mon cas, on a perdu trop de temps en fait, et on a fait souffrir bêtement dans le vent.
Pierre-Alain Sartou, comment est-ce que on peut expliquer ce changement de foyer en foyer? On entend souvent ça, de famille en famille, de foyer en foyer. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui explique ces modifications dans le parcours? Et puis, je crois que c'est aussi un souhait de justement essayer de tenir un parcours stable.
Alors, honnêtement, c'est un objectif qui est connu des politiques publiques et qui n'est pas aujourd'hui satisfaisant. C'est effectivement la capacité à apporter, je parlais tout à l'heure de sécurité, il y a une forme de sécurité à apporter un placement qui soit stable dans le temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui peuvent l'expliquer. Première chose qu'il faut dire, c'est quand même qu'on a énormément de situations individuelles très différentes. On a des enfants qui sont placés dès leur plus jeune âge, parfois depuis bébé, et qui restent dans la même famille d'accueil jusqu'à leur majorité. Ça existe.
Voilà. Ouais.
Il y a aussi effectivement beaucoup d'enfants qui sont des enfants déplacés, comme ça vient d'être dit. On parle aussi parfois d'enfants voitures parce que justement ils sont sans arrêt trimballés d'un éducateur à des professionnels médicaux, chez leur juge, en audience, etc. Donc ça, c'est vrai que c'est pas calme, c'est pas du tout confortable, et ça s'explique parfois par des raisons qui sont purement administratives, purement institutionnelles. C'est presque kafkaïen. Voilà, c'est une famille d'accueil qui est en gros dont la mission c'est de faire de l'accueil d'urgence. Donc le deal en quelque sorte, c'est que l'enfant va rester dans cette famille pendant quelques mois, même si ça fonctionne bien, si l'enfant s'y trouve bien parce que il est dans un contexte où la famille d'accueil est sécurisante, elle est aimante, il va vouloir avoir envie d'y rester, mais c'est pas le contrat. Le contrat, c'est que c'est un accueil d'urgence le temps qu'on trouve une place ailleurs. Donc ça, une place qui peut arriver. Puis monsieur indiquait qu'il avait un parcours pénal, peut-être qu'il y avait aussi un placement du fait de décision de justice en réponse aux infractions qu'il a pu commettre. Donc ça aussi, ce sont évidemment des placements qui sont limités dans le temps. Voilà, donc il y a des décisions comme ça. Il y a des choses qui fonctionnent mal, il faut le dire. Moi, j'ai l'exemple en tête des familles d'accueil qui qui ont des enfants placés chez eux, avec qui ça se passe très bien, et d'une raison sans particulièrement leur expliquer pourquoi, du jour au lendemain, on va dire, bah non, cet enfant maintenant va aller dans un foyer.
Ah oui, sans forcément que ce soit expliqué, quoi.
Ouais, c'est ça. Il y a des situations comme ça qui existent, hein, qui sont très délicates. Il faut pas les taire. Il faut quand même dire qu'il y a aussi beaucoup de situations qui fonctionnent très bien.
Oui.
En particulier pour les familles d'accueil. Je pense que vous allez en parler à 10 heures.
Oui.
Mais pour lesquelles il y a effectivement des accueils qui sont pour le coup très bien traitants.
Alors à 10 heures, on parlera vraiment des familles d'accueil, mais pas pour les enfants, vraiment pour les personnes en situation de fragilité, personnes âgées, personnes en situation de handicap. Anne-Marie nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour Melchior et bonjour à toute l'équipe.
Oui, on vous écoute.
Oui, alors moi je voulais témoigner pour rendre hommage à tous ces éducateurs, ces éducatrices, même anciennement, car j'ai été placée depuis l'âge toute petite avec mes sœurs dans un foyer de filles. Il n'y avait que des filles à l'époque. Et il y avait des religieuses au départ, mais à l'adolescence, c'était des éducateurs et des éducatrices et qui nous ont permis de nous épanouir. Nous étions une quarantaine, 45 enfants dans ce foyer. Et les éducateurs et les éducatrices avaient des postes stables quand même, comme... il y a un éducateur, là, un intervenant, et ils mangeaient avec nous, ils avaient leur chambre, et ils faisaient leurs études. Il y avait beaucoup d'éducatrices, donc, qui faisaient des études en psychologie à la faculté de Clermont, et qui venaient, qui s'occupaient de nous.
Oui.
Et elles étaient vraiment très chouettes, parce que le vendredi, on allait au ciné-club dans leur faculté, voir des films en noir et blanc.
Donc
on y allait en voiture et tout.
Oui.
Et elles étaient humaines, c'était familial quand même ce foyer.
Voilà, et vous en gardez des bons souvenirs, Anne-Marie, on l'entend également dans votre témoignage, et c'est intéressant. Anne-Flore Magnan, comment vous réagissez? Qu'est-ce qui fait que dans le cas d'Anne-Marie et de ses souvenirs, ça a fonctionné? Qu'est-ce qu'un parcours réussi d'ailleurs?
Ce que j'entends dans ce que dit Anne-Marie, et je la remercie, c'est la question de la présence. Et c'est quelque chose qui est très cher à Jean Bosco et à notre pédagogie, et qu'on essaye d'avoir dans toutes nos structures, dans notre réseau d'action sociale qui s'appelle Don Bosco Action Sociale, c'est la qualité de la présence adulte envers les jeunes et la responsabilisation des jeunes envers les autres. Ce qui fait un parcours réussi, parce qu'on a tous des critères de réussite différents. Mais en revanche, un parcours réussi, c'est un parcours où, Pierre-Alain le disait, l'enfant va être sécurisé. D'abord ça. D'abord, il va pouvoir se poser, il va pouvoir respirer, il va pouvoir jouer, il va pouvoir redevenir un enfant. On ne s'en rend pas forcément compte quand on ne travaille pas dans ce secteur-là ou qu'on n'y a pas été... accueilli, placé ou déplacé, on a un niveau d'exigence envers ces enfants qui est drastiquement plus élevé qu'envers les autres enfants. Quand on accueille, nous, des enfants de 5-6 ans, on leur demande d'être autonomes, parce que quand on en a 15 à accompagner, vous imaginez bien une mère de famille qui aurait 15 enfants, ça existe, mais c'est un peu fatigant. Là, c'est des enfants qui ont en plus des carences, qui ont en plus des insécurités, donc ça demande d'autant plus de présence, de qualité d'accompagnement. Et ces enfants-là ont beaucoup moins de chances de réussite dans la vie à tous les niveaux. On le voit, nous, on travaille beaucoup sur la question de l'accompagnement scolaire. Non pas que l'école soit la clé de réussite de tout, mais ça peut aider quand même. Aujourd'hui, on le voit en France, 2/3 des enfants placés ont déjà un an de retard à l'entrée en 6e. Dans un système scolaire où le redoublement n'est plus obligatoire, où on fait tout pour que les enfants ne redoublent pas, quand eux ont déjà une année de retard à 11 ans, vous imaginez les conditions dans lesquelles ils sont pour étudier ou ne pas pouvoir le faire. Quand on en arrive au brevet... C'est 13% de réussite chez les enfants placés au brevet, où souvent on plaisante en se disant que c'est devenu très facile. Et de fait, en population générale, c'est 80%. Donc, quelles clés on donne à ces enfants? Comment on stabilise le parcours? Un enfant qui change d'école tous les 6 mois, tous les 8 mois, tous les ans, au gré des placements et des déplacements, à chaque fois, c'est à lui de se réadapter, de redécouvrir des copains à l'école, de refaire confiance à l'adulte, de redécouvrir comment travaille tel ou tel prof, etc. C'est pas aux adultes qui ont fait du mal à ces enfants-là qu'on demande de s'adapter. C'est toujours à ces enfants-là. Donc, évidemment, la reconnaissance pour moi va envers les travailleurs sociaux, parce que d'abord, j'en fais partie et je crois profondément à ce travail, mais aussi envers ces enfants. Tous ces enfants qui sont victimes des défaillances, des dysfonctionnements des adultes, c'est toujours à eux qu'on demande un effort. Nous, on a des jeunes qui, arrivés à 15-16 ans, nous disent « Mais en fait, ça fait 6 ans, 8 ans, 10 ans que je vous fais confiance, que j'écoute ce que vous me demandez, que je vais là où vous me demandez et il n'y a rien qui change ».
Continuons de vous écouter au standard au 04 72 38 20 23. Jamihu Théophile nous a rejoint. Bonjour Jamihu Théophile.
Oui, bonjour, ici Jamihu Théophile à l'appareil. Bonjour de m'avoir accueilli sur le plateau ce matin.
Merci à vous, vous êtes à Lille, on vous écoute.
moi, j'étais un enfant placé avant. J'étais placé de mon âge de 13 ans et demi jusqu'à mon âge de 18 ans. Et c'était un moment hyper compliqué parce que le foyer m'a vraiment effrayé. Et sur mon chemin, bien sûr, Dieu a vraiment mis des belles personnes. Mais avant ceci, j'ai souffert dans le foyer. J'ai vu toutes les couleurs, mais aujourd'hui, je rends grâce que toutes les couleurs que j'ai vues au foyer ne m'ont pas rabaissé. Mais par contre, ça m'en rend triste tellement quand je vois mes camarades de chambre que Satan est en prison aujourd'hui à la maison d'arrêt de Dunkerque. Et voilà, je me réjouis de faire partie de ceux qui ont commencé à réussir à s'en sortir parmi les enfants qui ont été placés. Et aussi, voilà. Et le foyer n'est pas génial, d'être sincère avec vous. Et la justice française a causé beaucoup de choses en donnant raison à ces enfants qui ne connaissaient rien et qu'on leur dit qu'on nous protège. Et certes, j'adore la France parce que la France est un des pays que j'ai beaucoup de respect pour, avec leur façon de faire, leur façon de voir des choses, mais aussi malheureusement il y a la France et il y a aussi les travailleurs dans ce domaine-là que tout le monde ne travaille pas sincèrement et en souveraineté.
Merci beaucoup, Jamilu Théophile, d'avoir témoigné ce matin. C'est vraiment sympa d'avoir des témoignages divers dans cette émission. Lucas Cortella, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est une revanche d'exercer ce métier d'éducateur spécialisé? Est-ce que c'est une envie que les autres... est-ce que vous avez envie que les autres vivent une expérience meilleure que celle que certains ont pu vivre?
À travers le comité, c'est aussi... Enfin, comment dire, je vais essayer de répondre à la question. Le comité existe aujourd'hui parce qu'il y a un espèce de ras-le-bol, il y a ce cri du cœur qui doit sortir de tous ces enfants, de toutes ces personnes qui ont vécu entre ces murs et à travers ce système. Et aujourd'hui, non pas grâce à mon travail ou à mon vécu, c'est même au-delà de ça. C'est pas forcément ça qui m'anime le plus en fait quant à l'avenir et ce qui nous reste à faire pour que l'aide sociale à l'enfance fasse vraiment son rôle de protection. C'est même au-delà de ça, c'est juste une question de devoir humain en fait. Enfin, je veux dire, alors peut-être que de par mon parcours et de mes difficultés d'être un ancien enfant placé, peut-être que j'ai une ouverture qui est différente comme tous ceux qui ont aussi souffert, mais c'est même au-delà en fait. Là, je veux dire, les enfants qui sont encore... Moi aujourd'hui j'ai 23 ans et je suis sorti de tout ça, ça fait... C'est pas si vieux, mais ça commence à faire quelques années. Je veux dire, aujourd'hui, il y a encore des enfants, en fait. Il y a nos petits frères, nos petites sœurs qui sont encore dans ces structures. Et c'est avant tout pour eux, pour les enfants, pour eux, les enfants de la République et les adultes de demain, en fait. C'est surtout ça qui me révolte. Ok, mon histoire fait sens et ça rejoint, mais c'est avant tout une question de devoir humain, en fait, d'arrêter de laisser nos enfants souffrir.
Lucas, qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on vous transmette pendant ces années à travers ces foyers, à travers ces éducateurs que vous avez rencontrés?
Je sais pas si j'aurais aimé qu'on me transmette quelque chose en particulier, mais de mon expérience, je pense que j'aurais aimé qu'on prenne le temps de me dire on te comprend et ça va aller, en fait, tout simplement. Moi, aujourd'hui, mon état de colère, il est pas dirigé contre les éducateurs parce que c'est un peu ce qui ressort des témoignages depuis tout à l'heure. Et moi, c'est la même chose. Je veux dire, moi, c'est pas les éducateurs qui m'ont traumatisé. C'est au-delà, c'est le système.
On entend bien quand même que c'est parce qu'il y a un manque de moyens. On sait que certains sont engagés de toute leur énergie. On l'entendait avec Anne-Fleur aussi.
Mais non, je sais pas. Mais aujourd'hui, le combat, il est là. Et moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est voilà, on y croit et t'as un avenir devant toi. Et en fait, juste qu'on puisse nous laisser la chance et qu'on nous laisse avoir l'envie, en fait, et qu'on nous donne cette chance finalement de s'en sortir comme les autres enfants. C'est surtout ça. J'aurais aimé qu'on me fasse confiance et qu'on me dise vas-y, tu peux y aller, c'est à toi.
Pierre-Alain Sartou, qu'on nous donne l'envie d'avoir envie, presque, on a envie d'ajouter. Ça paraît simple. Pourquoi est-ce que ça, c'est pas mis en place? Pourquoi est-ce que ça fait pas partie du lien finalement pour faire grandir l'enfant? Comment se fait-il que ça échappe? Parfois,
ça en fait partie, ouais. Mais c'est un objectif qu'il faut toujours garder en tête et ne jamais oublier. Parmi les choses qui marchent mieux aujourd'hui qu'avant, et j'espère que ça marche dans le plus d'endroits possible, la capacité d'écouter, les enfants, de ce qu'ils ont envie de faire, de ce qu'ils ont envie de devenir. Petit aparté sur les études. Aujourd'hui, il faut qu'on travaille aussi davantage sur le fait d'écouter les enfants quand ils grandissent, sur quels sont leurs horizons professionnels, quelles études ils veulent faire, et arrêter d'avoir une forme d'injonction à, de toute façon, les enfants placés, on sait qu'ils ratent le bac, donc te prends pas la tête, voie professionnelle, le plus vite tu trouves un travail, le plus vite tu sors avec un BEP, un CAP, le mieux tu t'en tireras. Ce type d'injonction, il faut en sortir complètement. Il faut être davantage à l'écoute. Anne-Fleur le disait, il y a une chose qui est toute simple, c'est permettre à ses enfants de redevenir des enfants quand ils sont dans les foyers. C'est peut-être une première chose, si on veut transmettre quelque chose, transmettre la capacité qu'on peut avoir de « on t'a sorti d'une famille qui est dysfonctionnelle, on t'a sorti d'une famille qui est parfois violente, qui est parfois humiliante, qui a pu parfois être complètement absente, donc là c'est plutôt des carences, redeviens enfant, tout simplement. » Voilà, ça fait partie de ce qu'on peut pouvoir faire avec les moyens suffisants, évidemment. Après, attention, les professionnels qui sont dans les structures, c'est pas des papas et c'est pas des mamans bis. Ils sont pas là pour se substituer à la famille. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a énormément de situations dans lesquelles le lien avec la famille est important et il faut le maintenir. Il y a des situations dans lesquelles ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Je crois que le témoignage de Marie-Angèle l'a bien démontré. Il y a aussi plein de situations dans lesquelles le lien avec la famille doit être cultivé, doit être entretenu, ne serait-ce parce que les enfants qui sont placés, il faut aussi parfois envisager leur sortie de placement. Et ça peut être des histoires qui se terminent bien lorsqu'ils peuvent retourner dans leur famille.
Anne-Fleur Magnan, justement, sur ce qui peut être transmis, donné, l'espérance. Et puis, d'un autre côté, comme nous le disait Lucas, avant de vouloir recevoir quelque chose, c'est d'abord être écouté. Qu'est-ce que vous dites de cela aussi pour la construction à la sortie du foyer? Vous y pensez?
On y pense dès que l'enfant arrive chez nous. Alors quand il a 5-6 ans, on n'est pas tout de suite sur des profils d'études longues, etc. Parce que ça paraît un peu loin. Mais... Et puis il n'est pas dit que l'enfant reste chez nous jusqu'à ses 18 ans. Ça, on l'a bien compris. En revanche, ce qui est important pour nous, c'est de considérer tous les éléments qui font l'enfant. Donc lui redonner sa place d'enfant, toutes les sécurités nécessaires pour qu'il puisse le redevenir et l'aider à le faire parce qu'il ne sait plus être enfant. Les autres enfants aident beaucoup à ça quand cet esprit-là est cultivé. Mais les autres enjeux, c'est considérer la famille à sa juste place. Je le redis, je ne suis pas pour l'idéologie du lien familial, du lien à tout prix. En revanche, on ne peut pas nier que l'enfant vienne d'une famille. Et donc, travailler ça par les différents professionnels. Et là, on a besoin de soins. Mais alors, c'est tout le système qui est à réinterroger. Mais prendre rendez-vous chez un psy pour un enfant, il faut être sacrément accroché. Il faut avoir le temps, il faut pouvoir l'emmener. C'est souvent des rendez-vous qui ont lieu pendant les journées d'école, donc on loupe encore l'école. Et donc tous les enfants qui ont des batteries de soins sont ceux qui loupent le plus l'école. Ça, c'est très clair. Mais permettre à l'enfant de reconsidérer petit à petit tout ce qui le constitue. Pour, comme on fait avec une blessure, une plaie, aller désinfecter, aller nettoyer ça, parce que ça va cicatriser, c'est appelé à cicatriser, à renaître, et il y aura une trace de ça. C'est le combat de Job avec Dieu. Il y a une trace. Job, il ne sort pas intact de ce combat. Par contre, il sait, il a expérimenté que l'espérance était au bout de la nuit. Et la trace qui reste lui permet aussi d'aller témoigner autrement. Moi, je suis très admirative de tous ces enfants placés ou tous les enfants victimes, quel que soit le type de violence qui a été commis. Ceux qui prennent la parole, qui viennent dire, on leur dit, mais vous n'avez pas assez parlé. Mais alors d'abord, pour un enfant parler, c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il y avait l'espace pour être écouté? C'est déjà la première question. Et puis, vraiment, moi, je l'observe, un enfant qui est victime de dysfonctionnement, de violence, quelle qu'elle soit, il ne dit qu'une infime partie de ce qu'est la réalité de ce qu'il subit. Parce que c'est trop à dire, c'est trop compliqué à verbaliser, c'est trop compliqué à imaginer. Pour un enfant de 7-8 ans, quand il va dénoncer ses parents sur certains faits réels, il faut imaginer la culpabilité et la dualité qu'il vit. Donc, il viendra dire, mon père est un peu violent. En réalité, les faits sont dramatiquement pires. Donc, permettre cet espace d'écoute, c'est essentiel. Moi, j'en reviens à pour que des éducateurs, enfin des travailleurs sociaux aient du temps d'écoute, il faut qu'il y ait des travailleurs sociaux dans les structures. Ouais. Il faut revaloriser ces métiers-là. J'ai repris des études il y a 2-3 ans pour faire un master 2 en sciences de l'éducation et j'ai travaillé cette question-là de comment soutenir les professionnels de la protection de l'enfance qui sont à bout de souffle.
Vraiment. Quand vous dites revaloriser, c'est à la fois les soutenir par des formations, mais aussi les soutenir financièrement.
Alors, il y a la question financière. Aujourd'hui, quand même, éducateur spécialisé, c'est un des travails les moins bien payés en France, alors qu'on est censé prendre soin des personnes les plus en fragilité ou dans les catégories les plus en fragilité. Du coup, comment on considère ces métiers-là? Et comment on considère les enfants, en fait? Si on n'accorde pas une réelle reconnaissance, alors financière, mais pas que, hein, même dans la place de la société, allez demander aux gens dans la rue s'ils savent ce que c'est qu'un éducateur spécialisé. Majoritairement, c'est ceux qui travaillent avec des personnes handicapées. Mais on a très peu la reconnaissance du métier auprès des jeunes en difficulté. Et moi, je l'affirme, un jeune en difficulté, c'est un jeune qui est empêché de se construire et d'aller bien. Donc, il y a des raisons en amont de ça. Mmh. Aucun enfant ne vient au monde avec l'envie de mettre le bazar à l'école, de devenir violent, d'être insultant et provoquant. Il y a des choses qu'il vit, qu'il traverse, qui viennent susciter ça. Mmh. Et si on ne travaille pas là-dessus, ça ira pas mieux sur le reste. Mmh. Mais la reconnaissance des travailleurs sociaux, d'un point de vue financier, d'un point de vue valorisation du travail, de prise de responsabilité dans les métiers, le jour où dans les processus d'accompagnement, la parole des travailleurs sociaux sera vraiment considérée. Alors, il y a des juges et des référents à eux qui le font, mais majoritairement, ils ne le font pas. Nous, on a une fratrie de jumelles qui a été retirée de notre maison du jour au lendemain. On l'a appris le matin pour l'après-midi même. Et qu'est-ce qu'on peut travailler avec ces enfants, avec les autres enfants du groupe, où il y a des liens qui se tissent? C'est un déchirement pour les éducateurs. C'est des enfants alors, qui ont déjà connu plein d'institutions, qui étaient chez nous depuis un peu plus d'un an. Et donc, on se disait, ça y est, on va se poser, on avance, il y a des choses qui se travaillent. Et peut-être que dans le fond, le juge a raison de changer de lieu parce qu'il y a d'autres besoins ou je ne sais quoi. Mais la manière dont on travaille ce fameux déplacement, la manière dont on travaille, la manière de dire au revoir, de saluer les autres enfants, de partir, de conclure en fait, pour arrêter les ruptures à répétition. Quand un enfant ne connaît que des vides, des ruptures, des déplacements, comment lui, il peut s'engager dans la vie? Comment il peut avoir suffisamment de confiance envers les adultes de la société, envers les autres enfants, envers lui-même, pour se dire « je suis capable de m'engager, de construire un projet qui me plaît ». Je peux être heureux, j'ai le droit de l'être et je vais m'en donner les moyens. Mmh. Et tout ça, les éducateurs peuvent le faire en leur donnant des conditions de travail correctes. Et c'est même pas tant... Enfin, vraiment, évidemment, la question du salaire, elle est importante, mais elle n'est pas essentielle. D'avoir des collègues avec qui travailler stable, c'est plus important qu'un salaire qui augmente. Mmh.
On a une auditrice, Pierre-Alain Sartou, qui s'appelle Violette, qui nous demande quel recours en cas de maltraitance, quand on est informé de ça dans un foyer, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, le premier réflexe, c'est de se tourner vers le 119. Le 119, pour information, c'est un numéro d'urgence qui concerne tout le monde. Il peut concerner les enfants qui sont victimes de violences. Il peut concerner les voisins qui entendent des enfants maltraités. Il peut concerner effectivement des collègues qui souhaitent dénoncer des situations qui sont maltraitantes à l'école, au sport, dans un foyer. Donc ça, c'est la première solution. Il faut savoir en plus que si ce sont des enfants qui appellent parce qu'ils sont victimes de maltraitance, au standard du 119, ils sont pris en priorité. Et parfois, il y a des déclenchements extrêmement rapides de mesures de protection. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument connaître et sur lequel il faut sensibiliser un maximum le grand public. Pourquoi ? Parce que on a aussi beaucoup de personnes qui n'osent pas. La famille, c'est un lieu privé qui est sacré. Donc, ce qui se passe à l'intérieur de l'appartement du voisin, de la maison d'à côté, ça nous regarde pas. Donc, on met une sorte de voile pudique sur ce qui se passe. Mais quand on entend des enfants hurler toutes les nuits parce qu'ils sont frappés par les parents, c'est notre rôle de citoyen, c'est notre rôle d'homme et de femme d'intervenir. Donc les solutions existent et la solution ici, c'est le 119.
Je voudrais parler justement, parler des ruptures et des arrachements, en quelque sorte, des enfants déplacés. On parle maintenant de la sortie, ce qu'on a appelé pendant longtemps les sorties sèches. C'est-à-dire qu'à 18 ans, c'est terminé. C'est dans la loi, hein, c'est l'enfant sort du foyer. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Lucas, comment ça s'est passé pour vous à l'âge de 18 ans?
Et ce sera le mot de la fin, Lucas.
Alors moi à 18 ans, quand j'ai eu mes 18 ans, j'étais encore accueilli dans ma famille d'accueil, celle chez qui je suis resté une bonne année. Sauf qu'à 18 ans, moi j'avais plus d'école, j'étais plus scolarisé, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure dans les témoignages au niveau de la scolarité. J'avais plus rien, donc je pouvais pas rester dans cette famille, donc le département m'a réorienté dans un foyer jeune travailleur parce que je pense qu'ils avaient un peu confiance en mon avenir, disons que je devais pas faire partie des pires pour eux. Donc j'ai signé un contrat qui s'appelle le contrat jeune majeur. L'idée de ce contrat, c'est un peu de parier un peu sur l'avenir du jeune. Et ma travailleuse sociale m'a un peu lâché dans ce foyer, toujours dans le cadre de ce contrat, mais C'est pas comme ça que ça doit se passer, malheureusement.
Bon, on va garder en tête parier sur l'avenir du jeune. Oui, merci, Lucas Cortella, travailleur social. Merci, Marie-Angèle Gandarès, qui était venue témoigner également tout à l'heure. Merci, Anne-Flore Magnon, éducatrice spécialisée salésienne de Don Bosco à Bruxelles. Et puis, merci beaucoup, Pierre-Alain Sartou, directeur général de la CNAP, la Convention nationale des associations de protection de l'enfance.
Merci, Madeleine. Merci à l'équipe de Bruxelles, de Radio Notre-Dame également, qui vous a accueilli en studio. Et dans un instant, on l'a dit, on va parler des familles d'accueil, mais pas pour les enfants, pour les personnes en situation de fragilité. À tout de suite.